Trinville PM. Politique.
C'est moi qui lui a demandé il y a quelques jours et il a accepté ma demande. J'en suis tellement fier.
Je suis très conscient de ce que je laisse sur la table. Je suis très conscient de la possibilité, autant pour, je vous l'ai dit, la gestion de l'État, ça sera pas facile, ça. Être opportuniste, c'est quand tout est facile. Moi, pour moi, ce que je m'engage à faire aujourd'hui, de rester là pour 4 ans, de servir les gens de la prairie. J'ai un gros défi avec les gens de la prairie.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Ben, c'est l'heure de parler politique et on va parler de celui qu'on vient d'entendre, M. Dubé qui se présente pour la CAQ dans la prairie, qui a fait 2 ans de 2012 à 2014. Alors qu'il était député de la CAQ dans la région de Québec, il est parti pour la Caisse de dépôt et là, il revient. Et Paul Journet a une opinion sur le sujet. Il est éditorialiste à la presse. Paul, bonjour.
Salut Bernard.
Carl Bélanger, consultant en communication, ex-stratège sur la scène politique fédérale. Bonjour Carl.
Bonjour.
Vas-y donc, est-ce que tu penses qu'il est un opportuniste? Il revient en politique parce qu'il veut devenir ministre?
Oui, sûrement qu'il revient en politique parce qu'il veut devenir ministre.
Parce qu'il pense en fait qu'il va devenir ministre.
Oui. Mais est-ce que c'est un opportuniste? Écoute, moi, je pense que ce qu'on peut critiquer, c'est plus son départ que son retour. Donc, il avait été député de Lévis, 2012 à 2014. En 2014, il est réélu et je pense 2 mois après, il quitte. C'est très court. On peut critiquer.
Au moins, il n'a pas pris sa prime de départ.
Exact.
Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore droit. On l'a rendu illégal là, pour des cas comme le sien un petit peu plus tard dans le mandat. Là.
Mais il revient pas pour l'argent. Au contraire, il laisse des millions de dollars sur la table parce qu'en ce moment, il se fait plus d'argent à la Caisse de dépôt puis il pourrait peut-être même s'en faire encore plus dans le privé.
Il laisse un million sur la table, hein, c'est ce qu'il dit?
Au moins un million. Ça, je lui fais confiance. Revient pour le pouvoir, ben il y a déjà quand même pas mal de pouvoir à la Caisse de dépôt. Je pense que c'est peut-être une question personnelle de fidélité envers François Legault, aussi un goût de la politique, puis enfin un goût de terminer sa carrière là-bas. Mais il faut quand même dire un mot sur Christian Dubé. On a parlé il y a quelques jours d'Éric Kerr. Christian Dubé, c'est à peu près le contraire d'Éric Kerr.
Christian Dubé, c'est l'antithèse. Ah oui?
C'est quelqu'un d'abord d'excessivement gentil. Est-ce
que tu as eu des mauvaises expériences avec Éric Kerr quand tu couvrais l'Assemblée?
Non, au contraire, comme spectateur, j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir dans toute sa pugnacité. Oui. Mais c'est un spécialiste, il a une expérience, disons, plus en politique qu'en secteur privé, oui. Monsieur Kerr, et c'est un spécialiste des lignes d'attaque, des questions très agressives.
C'est un spécialiste de la jugulaire.
Exact, de la joute politique, alors que Christian Dubé, lui, son expérience est davantage dans le secteur privé, quand il fallait être très partisan, très stratégique. On le voit, il était mal à l'aise. Lui, c'était un gars qui aimait beaucoup travailler ses dossiers. C'est vraiment un gars de fond. Lui,
c'est un gars de contenu,
questions de politique publique, d'économie. Ça l'intéresse vraiment.
Donc, pour toi, c'est une bonne nouvelle qu'il revienne en politique.
Oui, moi s'il y a quelque chose à critiquer, c'est son départ, c'est pas son retour.
Son départ étant beaucoup trop soudain après son élection.
Ben oui, il était trop soudain.
La
question qui se pose, c'est s'il est parti une fois rapidement, pourquoi qu'il le ferait pas 2 fois? J'entends bien son engagement, là, mais la réalité, c'est qu'il aimait pas ça être sur les banquets de l'opposition. Il s'est présenté, il a perdu, il est parti. S'il perd encore le pouvoir, François Legault, qu'est-ce qu'il fait, M. Dubé?
Moi,
je le crois. Quand Dubé dit « je vais faire mon mandat si on est dans l'opposition, si je suis dans l'opposition, je vais faire mon mandat au complet comme député d'opposition », je le crois. Sauf que je ne suis pas sûr que ça va faire un député d'opposition bien intéressé par son travail.
Oui, très actif. Ouais.
Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je le prends au mot. Je le crois. S'il dit qu'il va rester, mais bon, peut-être qu'il ne sera pas en effet le gars le plus passionné par son travail. Mais bon, ça reste à voir.
À moins qu'il ait des idées sur le leadership.
Je pense pas que ça me surprendrait beaucoup.
Non, je pense pas que
connaissant un peu le personnage, là, ça me surprendrait beaucoup.
Moi, j'ai siégé avec, là, et ce que décrit Paul, c'est exact, là. C'est un gars de contenu. C'est vraiment.
C'est facile à travailler avec lui. Je pense que les gens de tous les partis politiques voyaient devant lui quelqu'un qui était de bonne foi,
sérieux.
Puis qui avait une expertise indéniable. C'est pour ça que, pour citer François Legault, là, après l'hyper mauvaise nouvelle du départ de Stéphane Le Bouillonnec, là, tu te frottes les mains. Là. Je ne sais pas si lui, quand il a appelé Christian Dubé, s'il y croyait ou s'il avait l'impression, pour parler en langage de football, qu'il faisait un Hail Mary, mais
c'est
il doit être très content
Legault,
que ça ait fonctionné.
Legault. Oui, a confirmé que c'est lui qui l'a appelé.
Qui l'a contacté.
Ouais. Moi, je vais vous dire, Puis je t'entends, Carl, je sais que tu veux réagir. Moi, j'ai trouvé la ligne sur le million ou plus qu'il laisse sur la table. Ça, j'ai trouvé que c'était une bonne parade. C'était une bonne parade.
Parade.
Une parade dans le sens de, comment dire, neutraliser une attaque. Là,
ah, oui.
Dans ce sens-là. Là. C'est une bonne parade dans le sens où... parce que ça... Moi, j'écoute les gens autour de moi, là. Il y en a certains qui ont vu ça vraiment comme un geste opportuniste. Ah, ah, il sait bien, la CAQ a des chances d'être au pouvoir, il voit son poste de ministre, il revient en courant pour devenir ministre. Il y a des gens qui ont vu ça comme ça.
Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça parce que Paul tantôt parlait de, ben, il y avait déjà le pouvoir parce qu'il y a le pouvoir économique, mais le pouvoir politique, c'est différent. Et c'est ce qui attire des gens comme lui, c'est ce qui a attiré Bill Morneau au Parti libéral. Cette façon de fonctionner là, il y a une adrénaline qui vient avec ça. Tu gères le destin d'un peuple, finalement. C'est totalement différent que le pouvoir économique.
Et par ailleurs, du pouvoir économique, Paul, il y en a eu. Là. Il a travaillé chez, c'est quoi, Cascade, je pense, Dubé. Il a travaillé chez Domtar.
Oui.
Je veux dire, ce gars-là a occupé des postes intéressants. Il a siégé sur plusieurs conseils d'administration assez prestigieux.
Ouais. Il siégeait sur Québécois. J'imagine qu'il va devoir quitter, là, mais il était sur le CA de Québécois, entre autres.
Ah,
oui. Okay. Ça va être intéressant. On voit déjà qu'il y a des légers différences sur le fond, entre autres sur la question du pétrole. Puis quand il était à la Caisse de dépôt, ben, on sait que la Caisse de dépôt faisait la promotion active. Il était impliqué, entre autres, dans la cimenterie McInnis en Gaspésie, à laquelle s'opposait et s'oppose encore la coalition Avenir Québec. Mais je ne sais pas si je peux t'en parler brièvement, mais ce matin, ici, au 98.5, Christian Dubé a dit qu'au sujet du pétrole, il n'y croit pas. Il ne croit pas à l'exploration puis à l'exploitation du pétrole au Québec parce qu'il pense, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes, qu'il y a une transaction énergétique à faire puis qu'il faut regarder, je le cite, d'autres alternatives.
Une transition énergétique, tu veux dire?
Oui.
Une transition.
Oui, exact.
Il croit qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale aussi, j'imagine.
C'est oui, je pense que c'est beaucoup. Des raisons autant économiques qu'environnementales, alors que François Legault, lui, il a toujours voulu y aller à plein gaz.
Pour le pétrole. Pour le pétrole.
Souviens-toi, en 2012 puis en 2014, il voulait, il misait là-dessus pour rembourser la dette plus rapidement. Donc, il présumait qu'il y avait beaucoup d'argent à faire avec ça, ce qui est loin d'être certain. Puis, il voulait aussi que l'État s'engage activement. En 2013, là, il disait que l'État devait être copropriétaire. Il voulait donner un mandat à Investissement Québec quand Pauline Marois, peu avant la campagne électorale de 2014, avait annoncé sa fameuse entente à Anticosti, qui s'est avérée être une très, 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 très mauvaise entente sur le plan économique et aussi environnemental.
Ben, c'est avéré être une mauvaise entente parce que les libéraux ont décidé de tirer à bloc dessus.
Okay.
Si les libéraux avaient décidé de continuer avec l'exploration sur Anticosti, je ne sais pas si ça aurait été une mauvaise entente.
Ben,
on ne saura jamais.
On ne saura jamais, mais disons qu'on avait d'excellentes raisons de croire quand tu l'analyses point par point. Tu regardes la quantité de ressources qu'il y avait là-bas, le coût d'extraction, le coût de transport, le prix de la ressource du gaz ou du pétrole qu'il y avait là-bas. Ça, c'est pour l'aspect économique. Et pour l'aspect environnemental, comment est-ce que tu peux, d'une part, te lancer dans un projet pour lequel le pic d'émissions de gaz à effet de serre serait vers la 2040-2050, puis dire en même temps de l'autre côté de la bouche qu'à ce moment-là, on sera en train de décarboniser notre économie.
Ouais, c'est un peu le même problème que le pipeline transmontane. C'est un peu le même problème. C'est les sables bitumineux. Ça coûte extrêmement cher. C'est extrêmement polluant.
Puis
Paul, je te laisse aller.
Je finis, mais...
L'exploration, regarde, on a mis des dizaines de millions. Puis on ne sait toujours pas s'il y en a ou s'il n'y en a pas et en quelle quantité il y en a et combien ça aurait coûté pour le sortir.
Il y a combien de grosses entreprises privées qui étaient intéressées par ce projet?
Je ne suis pas un partisan du pétrole. Je pense qu'à un moment donné, il faut passer à des énergies vertes. Mais la transition vers des énergies vertes va faire en sorte qu'on va encore en utiliser du pétrole qu'on achète actuellement d'ailleurs, qui vient d'ailleurs que du Québec. Et à partir du moment où on avait décidé de mettre de l'argent pour essayer de savoir s'il y en avait sur Anticosti, moi, je pense qu'une fois que tu t'es embarqué, va au bout de la logique, va voir combien il y en a, puis après, comme société, on décidera si on le sort ou si on ne le sort pas, puis combien il coûte.
Mais est-ce que c'est le rôle de l'État de mettre de l'argent pour aller voir le potentiel? Et est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une lumière jaune ou une lumière rouge qui s'allume quand on voit que le privé, les grosses entreprises privées s'y intéressent pas? Dans l'Ouest, malgré tout ce qu'on peut dire, les sables bitumineux, les entreprises privées sont intéressées par
ça. Il y avait des actionnaires.
Nomme-moi un seul gros joueur, joueurs qui étaient intéressés par
Junex, Andy
Gostie.
Petrolia.
J'ai dit gros joueurs.
Ben oui, mais là, c'était des joueurs québécois.
Ben oui, mais c'est des petits projets.
C'était Junex, c'était Petrolia, puis il y avait également la firme là, dans les maritimes qui avait pris une
Corridor
participation.
Corridor Ressources, puis Morel Leprom à un certain moment.
Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? En tout cas, bref, refermons ce débat, parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est que Legault reste ouvert au pétrole, alors que Dubé, lui, n'y croit pas. Christian Dubé, donc ce nouveau candidat. On va aller rejoindre notre ami Carl. Mm-hmm. Parlons un petit peu d'Alena, mon
ben
Carl,
oui,
hein, parce que ça recommence demain, les négos, là.
Ça recommence demain à Washington. Tout le monde va se réunir encore une fois pour négocier très serré. Il semble qu'il y a deux points là, qui achoppent présentement. C'est la fameuse question de la gestion de l'offre, évidemment, mais aussi la question du chapitre 19, qui est le mécanisme indépendant de règlement des différends. Le Canada semble convaincu que ça, c'est une ligne dans le sable, on ne veut pas la franchir. Mais
qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je veux savoir ce que Carl Bélanger en pense. Est-ce que tu penses que c'est une ligne rouge qu'on ne peut pas traverser, là? Le mécanisme de règlement, rappelons-le, c'est ces tribunaux indépendants, les panels, qui font en sorte que, mettons, qu'un tribunal américain, le bureau américain du commerce, mettons, nous impose des tarifs sur notre bois d'œuvre, bien qu'on ait un mécanisme indépendant où on peut porter notre cause en appel. Est-ce que ça, pour toi, si on n'a pas ça, on ne signe pas?
Écoute, je pense qu'il est possible certainement de le moderniser sans l'éliminer, mais cet accord-là a été négocié avant Internet. Le chapitre 19, la base, c'est l'accord de libre-échange original. Il n'y a pas d'Internet. L'ALENA, il n'y a pas de téléphone intelligent.
Je te parle des panels indépendants, les tribunaux indépendants sur le commerce.
Mais tout ça, c'était avant le commerce numérique. Donc, tout ça a besoin d'être modernisé.
On s'entend.
Il y a une chose qui est claire. Le Canada ne réglera jamais les différends commerciaux devant les tribunaux américains. Ça serait suicidaire de faire ça.
Ça serait suicidaire de dépendre seulement des tribunaux américains.
Mais oui.
Paul Journet, es-tu d'accord avec ça, toi?
Ben, regarde juste ce qui s'est passé avec le bois d'œuvre.
Oui.
À chaque fois, le Canada a raison sur le fond, mais on réussit à faire éterniser les dossiers devant les tribunaux.
Mais on finit par gagner. On finit par gagner devant les tribunaux indépendants.
On gagne juridiquement, mais on perd économiquement. Parce qu'en attendant le jugement, on perd beaucoup d'argent année après année.
Mais il vaut mieux perdre économiquement puis gagner juridiquement que de perdre sur les deux tableaux.
Oui.
Hein,
mais s'il n'y avait pas de mécanisme indépendant, on perdrait sur les deux tableaux.
Et
parce que les tribunaux américains de première instance penchent souvent du même bord. C'est un peu comme la Cour suprême au fédéral. Ils penchent souvent du même bord.
OK.
Ça, c'est une citation du Plessis.
Oui, c'est du Plessis.
La Tour de Pise, la Cour suprême.
Oui, exactement. Alors, est-ce que tu crois qu'il y a des chances qu'on, en une minute, mettons, là, penses-tu qu'il y a des chances qu'on puisse en arriver à une entente cette semaine avec les Américains?
Ben, moi, je pense que ça va prendre plus de temps. Là. Le deadline artificiel de vendredi passé et que Trump avait imposé est disparu. Puis la question clé qui va être discutée, c'est toute la question de la gestion de l'offre. D'ailleurs, il y avait une entrevue intéressante à Paul Arcand ce matin avec Brian Mulroney. Les auditeurs, s'ils n'ont pas eu la chance de l'entendre, je vous invite à aller le faire. C'était très intéressant.
On peut peut-être écouter un petit extrait.
Oui, allons-y.
Le Canada a fait ça avec l'Europe. Et puis on fait ça avec le TPP. C'est pas la première fois qu'on ouvre la gestion de l'offre. Il a fallu consentir un pourcentage accru pour l'Europe et un pourcentage accru pour le TPP. Mais je ne serais pas surpris de voir que l'on ouvre ça un petit peu davantage pour obtenir justement un règlement.
Donc, faire entrer plus de lait américain sur le marché canadien.
C'est ça. Et est-ce qu'on peut donner un meilleur accès tout en protégeant la gestion de l'offre? C'est possible. M. Mulroney vient de le dire. On l'a fait dans le cas du commerce avec l'Europe, dans le cas de l'échange du partenariat transpacifique. Faut dire que la valeur du commerce de l'ALENA s'élève à peu près à 1 000 milliards de dollars US. Les recettes agricoles pour le lait, c'est 6 milliards au Canada et 34 milliards aux États-Unis. C'est une goutte de lait dans le seau commercial. C'est une toute petite goutte.
Les recettes agricoles au Canada pour l'ensemble l'ensemble des productions agricoles, c'est 6 milliards.
Producteurs laitiers.
Ah, les producteurs laitiers, c'est 6 milliards.
6 milliards au Canada, 34 milliards aux États-Unis. Donc, c'est vraiment là un tout petit, même pas un point de pourcentage. Je pense que c'est 0,12% du commerce entre les deux pays. Alors, pourquoi c'est important? Mais c'est parce que c'est la politique, messieurs, la politique. Trump a fait des gros gains dans des États démocrates en 2016, le Wisconsin notamment, la Pennsylvanie, l'Ohio. Sa victoire au collège électoral, il la doit surtout à ces trois États-là. Et dans ces trois États-là, il y a une industrie laitière très importante.
En particulier au Wisconsin.
particulièrement au Wisconsin.
Ils veulent nous vendre du lait, eux autres.
Et du fromage, même du fromage en grains.
Ils veulent nous vendre des protéines laitières qu'on met dans le fromage. Bon, voilà. OK. Ben c'est à suivre. On va avoir l'occasion d'en reparler parce qu'ils recommencent à discuter demain. On va s'arrêter. Et dans un instant, les régions courtisées, Paul?
Et comme d'habitude.
Ben oui, c'est bon, ça.
Ben parce que c'est important, les régions, donc c'est bon.
Il y a des comtés aussi en région. Alors, on en parle après la pause. De retour avec Carl Bélanger et Paul Journet. Paul, les régions donc qui sont courtisées?
Comme d'habitude, oui, on le disait, mais il y a à peu près 40 circonscriptions sur 125 qui sont en région. Donc, c'est pas une surprise. Il y en a plusieurs d'entre elles qui changent de couleur d'une élection à l'autre. Je commence avec les libéraux qui veulent déplacer certains employés de la fonction publique dans les régions. Par exemple, des employés des mines iraient en Abitibi, des forêts à Saguenay, et des pêcheries iraient en Gaspésie. Bien sûr, il faudrait qu'ils s'entendent avec les syndicats parce que selon les conventions collectives, il y a un maximum de déplacement de 50 km. C'est pas un obstacle qui est insurmontable, mais il y en a qui disent, ben c'est bien beau, là, la décentralisation, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous avez aboli, entre autres, les centres locaux de développement? Donc, évidemment, les libéraux au pouvoir depuis un petit bout de temps doivent essayer de concilier leurs promesses avec leurs réalisations passées.
Puis par ailleurs, tu as raison de dire pourquoi ils ont aboli les CLD, mais par ailleurs, ça fait comme 15 ans que les libéraux sont là. Pourquoi est-ce qu'ils ont... S'il y avait le goût de déménager les fonctionnaires des mines...
Philippe Pouillard, ça fait 4 ans qu'il est là. Il ne peut que défendre son propre bilan. Est-il responsable du bilan de Jean Charest? J'ouvre une vaste question. Cette porte que je viens d'ouvrir, je la ferme pour enchaîner et donner la contrainte de temps. Je laisse chacun répondre intérieurement. Le Parti québécois qui est scandé « Vive les régions libres
». Ah oui? Oui? Il a vraiment dit ça?
Oui, il a dit ça.
« Vive les régions libres? »
Pourquoi pas?
Ben oui,
c'est bien dit, moi, je trouve. Donc, Jean-François Lisée qui propose une loi cadre pour la décentralisation.
Le PQ, ils ont quand même eu quelques années au pouvoir. S'ils avaient eu la volonté de décentraliser, ça aurait été... Le temps de le faire quand ils étaient au gouvernement, non?
À la décharge du gouvernement, Marois, écoute, quand t'es un gouvernement minoritaire pendant 18 mois...
Je te parle de l'ensemble de l'œuvre, là. OK. Les péquistes ont quand même été au pouvoir pendant quelques mandats.
Oui, c'est arrivé dans les années 90, je crois.
Et 80.
Oui, entre autres.
Et 70.
Oui, ce que Jean-François Lisée expliquait, c'est qu'il faut toujours que tu aies une reddition de compte, mais lui, il trouve que la reddition de compte entre les maires et leurs citoyens, donc au niveau municipal, c'est suffisant. Puis au-delà des grandes structures, là, tout ça, il y a une proposition intéressante dont on ne parle pas beaucoup à Montréal, c'est celle de casser le monopole d'Air Canada. On sait que les libéraux, tu sais, les vols interrégionaux au Québec, ça coûte une fortune, c'est terrible.
C'est l'enfer.
Les libéraux ont fait quelque chose, mais selon les péquistes, ça ne va pas assez loin parce qu'on permet encore à des gens comme Air Canada, selon le Parti québécois, de casser les prix. C'est-à-dire qu'ils acceptent de perdre l'argent en baissant les tarifs pendant une semaine ou deux pour tuer la compétition, puis ensuite, ils réaugmentent leurs tarifs. Le Parti québécois veut répondre à ça. Et puis, est-ce que j'ai un petit 30 secondes pour te parler de Québec solidaire?
Un petit 30.
Oui. Manon Massé qui veut exiger, lorsque c'est possible, que les constructions se fassent en bois. Moi, ça me paraît singulier. Il y a déjà une charte du bois qui a été proposée par le gouvernement péquiste. On forçait les gens à évaluer la possibilité de mettre du bois et non pas exiger. Il y a des bonnes raisons pour ça, parce que si tu les forces, tu peux violer les accords commerciaux. T'sais, le Québec, on a beaucoup besoin des marchés étrangers, à commencer par les États-Unis pour nos producteurs de bois, mais ça joue dans les deux sens quand tu fais ça. Donc, il y a des risques de poursuite, puis aussi, il y a des gens qui ne seront pas trop contents de se faire imposer ça. Donc, on avait déjà été, du point de vue des autres partis, aussi loin qu'on pouvait le faire avec la charte du bois.
Je trouve que ça va trop loin.
Ça peut tenir la route. C'est beau dans une conférence de presse, mais en pratique, si tu essaies d'appliquer ça, puis bonne chance avec le lobby du ciment que tu vas avoir dans ta face.
Et de l'acier.
Aussi.
Ah oui. Carl?
L'ALENA? Fini? Mais Trans Mountain? Faudra en parler parce que ça continue.
Ben vas-y, mon gars, parle-nous-en.
Écoute, les députés de l'opposition, les conservateurs et le NPD se sont unis pour convoquer une réunion d'urgence du comité des ressources naturelles. Ça va commencer, en fait, c'est commencé il y a quelques minutes. Ils veulent parler du fameux pipeline de Trans Mountain. Ils veulent parler de ça parce qu'ils pensent que ça pourrait coûter très cher à Justin Trudeau. Il arrive de deux directions totalement opposées. On s'entend, les conservateurs et le NPD ne s'entendent pas du tout sur la question. Mais où ils s'entendent, c'est que c'est de la faute de Justin Trudeau. Écoutons le chef du NPD, Jagmeet Singh, et Pierre Poilievre, qui est porte-parole du Parti conservateur sur le dossier.
C'est tellement clair, les impacts de changement climatique ont vraiment... les Canadiens ont vraiment senti les impacts. On demande que le gouvernement arrête l'expansion de Kinder Morgan.
Kinder Morgan, l'une des plus grandes entreprises d'oléoduc au monde, a non pas seulement pris son argent à l'extérieur du Canada, ils ont pris 4 milliards de dollars des contribuables canadiens. Ça, c'est le bilan de Justin Trudeau. Dans trois mots, le bilan de Justin Trudeau par rapport aux oléoducs, c'est échec, échec et échec.
OK. Visiblement, ils veulent faire de la politique sur le dos de Trudeau avec cet enjeu-là. Là.
Les conservateurs veulent absolument que Trudeau porte le chapeau pour cet échec-là. C'est une manne pour les conservateurs, particulièrement dans l'Ouest. Puis en fin de semaine, là, Andrew Scheer a émis une déclaration cinglante contre Justin Trudeau. Et il y a eu des propos sur les sables bitumineux qui étaient assez extraordinaires.
Oui, ben il a dit que c'était le pétrole le plus propre sur la planète. Donc je sais pas si c'est délirant là, ou c'est l'équivalent là, si Andrew Scheer nous dit que le bacon c'est la meilleure source de vitamine C au monde ou un paquet de cigarettes par jour éloigne le médecin pour toujours. Là.
Scheer a dit que le pétrole le plus propre.
Oui, il a rien dit sur le bacon et la cigarette, mais il a dit que le pétrole et les sables bitumineux étaient le plus éthique et le plus propre. Donc il y a eu les propos les plus mensongers sur l'environnement. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est un mensonge.
Et cette ligne là sur le plus propre et le plus éthique, c'est ce que des gens comme Ezra Levant, qui vient de Rebel Media, puis avant ça, qui est avec Sun Media, répète tout le temps. Ils attaquent les pays du Moyen-Orient en disant « Eux, ils sont pas éthiques, eux sont pas propres, faut les transporter jusqu'ici. » Alors, ils disent toujours...
Ça vient d'un régime autoritaire, etc.
C'est ça. Et ils disent « Nous, au Canada, on est propre, on est éthique. » Et on devrait l'utiliser. Donc, c'est pas fini. Surtout que la réaction des libéraux au début n'a pas été très convaincante. Blâmer Stephen Harper, ça n'a pas vraiment convaincu personne.
Carl Bélanger, consultant en communication, ex-stratège politique avec notamment Le Bon Jack. Merci, Carl. À demain.
Merci.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Je te laisse retourner à tes écrits.
Merci, Bernard.
Est-ce qu'on va te lire demain?
Je l'espère.
J'espère qu'il va être bon.
Comme d'habitude.
Ton édito. Restez avec nous.